Tipi. RFI, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Il est 22h à Paris, 23h à Gaza.
Mathis Limano.
Le dernier hôpital du nord de l'enclave palestinienne n'est plus fonctionnel, annonce l'OMS. Tous les patients et personnels soignants ont été évacués et transférés vers un autre hôpital à la suite d'un raid de l'armée israélienne. Elle affirme qu'il abritait un centre de commandement du Hamas. Le directeur de l'hôpital suspecté d'être un terroriste a été arrêté comme 240 autres personnes. Également à la une, l'arrestation d'une journaliste italienne en Iran. Ça s'est passé le 19 décembre, mais on l'a appris hier. Cecilia Sala était à Téhéran dans le cadre de son travail. L'ambassadrice italienne en Iran lui a rendu visite en prison. Elle est détenue et l'Italie met la pression pour qu'elle soit libérée, vous l'entendrez. Et puis le chargeur universel devient obligatoire à partir d'aujourd'hui dans l'Union européenne. Objectif, limiter la production de déchets électroniques. L'armée israélienne annonce la fin de son opération contre l'hôpital Kamal Adwan, situé à Beit Laya dans le nord. Il était le dernier hôpital opérationnel de la zone. L'armée affirme qu'il abritait un centre de commandement du Hamas. Son directeur, suspecté d'être un terroriste, a été arrêté pour être interrogé, comme 240 autres personnes. L'hôpital a été mis hors service par le raid, selon l'Organisation mondiale de la santé. Il est désormais vide de ses patients et personnels soignants. Margaret Harris est porte-parole à l'OMS. Elle s'inquiète du transfert des patients vers une autre structure, l'hôpital indonésien, pourtant déjà détruit par des bombardements.
Une grande partie de l'hôpital a été incendiée et est sérieusement endommagée, y compris le laboratoire, les salles d'opération, le département technique et de maintenance, ainsi que l'unité de stockage pour les médicaments. Dans un premier temps, 12 patients et des infirmières ont été évacués de force vers l'hôpital indonésien, mais il faut savoir que ce dernier est déjà détruit et ne fonctionne plus. Il n'y a plus de nourriture, ni d'eau et rien qui permette de soigner des malades. Au moins 15 patients en état critique, 50 soignants et 20 membres du personnel médical se trouvaient encore à l'intérieur de l'hôpital hier soir. Mais selon ce que nous savons, ils ont eux aussi été transférés vers l'hôpital indonésien entre-temps. Mais comme je le mentionnais déjà, cet hôpital ne dispose ni de l'équipement nécessaire, ni d'un approvisionnement pour prendre soin des patients. Nous sommes donc très inquiets pour ces personnes. Very, very concerned
about the well-being of those people. Margaret Harris, porte-parole de l'OMS avec Heike Schmidt. Le nord de la bande de Gaza, d'où deux projectiles ont été tirés vers le territoire israélien, selon l'État hébreu. Les sirènes ont retenti dans les régions de Jérusalem, Negev et Shefela. Ils ont été interceptés par l'armée de l'air. En Turquie, la prison à vie pour 3 suspects. Ils ont été reconnus coupables de la mort d'une fillette de 8 ans, Narin Guran. Son corps a été retrouvé en septembre, 19 jours après sa disparition dans la province de Diyarbakir, un drame qui avait suscité l'émotion partout dans le pays. Direction l'Iran voisin, à présent minuit 3 à Téhéran. C'est dans un hôtel de la capitale qu'une journaliste italienne a été arrêtée le 19 décembre. L'information n'a été révélée qu'aujourd'hui par les autorités de Rome. Cecilia Sala, qui travaille pour le quotidien de droite Il Folio et pour l'agence de podcast Cora Media, est toujours incarcérée en cellule d'isolement dans la prison d'Evian. Les raisons précises de son arrestation restent encore floues, d'après Antonio Tajani, le chef de la diplomatie italienne qui espère la libération rapide de la journaliste Anne Lenir.
Munie d'un visa de journaliste, Cecilia Sala, 29 ans, avait quitté l'Italie le 12 décembre pour se rendre à Téhéran, où elle devait réaliser des interviews pour son podcast, diffusé par l'agence Cora Media. Son retour était prévu le 20 décembre, mais sans nouvelles d'elle depuis le 19 décembre, l'agence a pris contact avec l'unité de crise du ministère italien des Affaires étrangères. Tenant à préserver la discrétion nécessaire pour négocier sa libération, le chef de la diplomatie a attendu 8 jours pour informer les médias de son arrestation pour comportement illégal, motif extrêmement vague, et des deux brefs appels que ses parents ont reçus d'elle. Depuis, Cecilia Sala a pu rencontrer dans sa prison l'ambassadrice d'Italie en Iran, Paola Amadei, qui a simplement confirmé son bon état de santé. Selon les médias italiens qui soulignent tous l'unité nationale du pays face à cette affaire, l'arrestation de la journaliste pourrait être en lien avec celle à Milan le 16 décembre. décembre d'un citoyen iranien de 38 ans, Mohammad Abedeni Najafabi, à la demande des États-Unis qui l'accusent d'avoir violé les sanctions américaines contre l'Iran. Anne Lenir, Rome, RFI.
RFI. L'enquête se poursuit après le crash mercredi d'un avion de ligne. D'après le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, l'appareil a subi des interférences physiques et techniques externes. Il s'est entretenu avec Vladimir Poutine aujourd'hui, qui s'est excusé sans reconnaître la responsabilité de la Russie, mais a évoqué des tirs de la défense antiaérienne au moment où l'avion a survolé l'espace aérien russe. L'Union européenne appelle pour sa part à une enquête rapide et indépendante. L'avion qui reliait Bakou à Grozny en Tchétchénie s'est écrasé au Kazakhstan. À son bord, 67 passagers et membres d'équipage. 38 personnes n'ont pas survécu. Place à l'économie dans votre journal international et ses tensions entre Pékin et Brasilia. La Chine a lancé hier une enquête sur le bœuf importé par le Brésil, annonce du ministère chinois du commerce, alors que le prix et la consommation du bœuf ont tendance à baisser en Chine. Les explications de Claire Fage.
Les importations de bœuf ont-elles porté préjudice à l'industrie chinoise de la viande? C'est ce qu'affirment les représentants chinois du secteur. Confrontés à de lourds excédents cette année, la plupart des élevages bovins chinois sont déficitaires. La consommation de bœuf a baissé avec le ralentissement de l'économie chinoise. Les prix de cette viande sont au plus bas depuis 5 ans, alors que dans le même temps, les importations, majoritairement en provenance d'Argentine, du Brésil et d'Australie, ont augmenté de 70%. L'enquête doit durer 8 mois, mais pourrait être prolongée et elle pourrait aboutir à une mesure de sauvegarde du marché chinois, c'est-à-dire à une augmentation des taxes, comme cela s'était produit avec l'orge australien en 2020, lorsque les relations avec Canberra s'étaient détériorées. Cette fois, Pékin pourrait faire coup double en imposant des taxes sur le bœuf étranger, contenter les producteurs bovins chinois et répondre aux taxes que le Brésil a imposées aux câbles et aux produits d'acier chinois.
Mais pour le moment, pas de quoi apaiser les tensions entre les deux pays. Les autorités brésiliennes ont indiqué qu'une enquête était en cours pour trafic international visant à l'exploitation d'ouvriers chinois sur le chantier de construction d'une usine du géant chinois de la voiture électrique, BYD. Ça se passe dans l'état de Bahia, au nord-est du Brésil. Veille d'investiture présidentielle en Géorgie. Le footballeur Mikhail Kavelashvili doit prendre ses fonctions demain. Il a déjà été adoubé par le rêve géorgien, parti pro-russe au pouvoir. Une investiture vivement contestée. Aujourd'hui, des milliers de manifestants pro-européens se sont rassemblés à Tbilissi. Parmi eux, la présidente Salomé Zourabichvili. Certains des manifestants ont formé une longue chaîne humaine enveloppée dans des drapeaux géorgiens et de l'Union européenne. La Géorgie est plongée dans une crise politique depuis les législatives d'octobre remportées par le rêve géorgien. Depuis, le parti est accusé par l'opposition de repousser l'adhésion du pays à l'UE. L'Union européenne, où l'objectif à long terme, c'est qu'il n'y ait plus qu'un seul câble de recharge dans ce tiroir où de nombreux fils s'entremêlent, n'arrangeant rien à la pollution des déchets électroniques. Vous l'avez compris, depuis aujourd'hui, le chargeur universel devient obligatoire. Tous les petits appareils électroniques vendus neufs doivent dorénavant être équipés d'un port de charge de type USB-C, et ce dans le cadre d'une directive européenne adoptée en 2022. Jean-Jacques Herry depuis Bruxelles.
L'objectif premier de la mesure est de limiter la production de déchets électroniques, ce que favorisait jusqu'à maintenant la multiplication des câbles et des chargeurs de batterie pour des appareils de marques différentes. Voilà ce qu'en disait l'ancien eurodéputé socialiste belge Marc Tarabella le jour du vote de la législation au Parlement européen en octobre 2022. Il était alors membre de la commission de protection des consommateurs.
À l'avenir, on ne sera plus obligé d'acheter le chargeur qui va avec le téléphone si on a un chargeur chez soi qui fonctionne. Il y aura aussi une économie, en tout cas environnementale. Évidemment, ça génère des dizaines de milliers de tonnes de déchets, on estime à 11 à 13 000 au niveau européen, et nos tiroirs regorgent de chargeurs qui ne servent plus à rien.
Il y a également un objectif financier, réduire la facture pour les citoyens. Smartphones, tablettes, écouteurs, liseuses, tous ces appareils électroniques pourront en effet être vendus sans chargeur, et avec un même chargeur pour tous ces objets, l'économie pourrait être de 250 millions par an en Europe. Évidemment, si l'on calcule celle-ci par habitant, c'est beaucoup moins impressionnant. Cela représente une économie d'un peu plus de 50 centimes d'euros par an par consommateurs européens. En tous les cas, cette législation pionnière facilitera la vie des consommateurs, même si la simplification prendra plusieurs années, le temps que les appareils d'ancienne génération aux connecteurs non standards sortent des circuits de consommation. Jean-Jacques Herry, Bruxelles, RFI.
Et puis, 1,2 milliard $, c'est la valeur d'un billet de loterie émis aux États-Unis, le 5e plus gros jackpot de l'histoire, d'après l'organisateur. Le billet a été acheté en Californie. L'identité du gagnant n'a pas été révélée, pour la simple et bonne raison qu'il n'a toujours pas réclamé son gain. RFI, il est presque 22h10 à Paris.